Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de la French Tech de Toronto. Pour ce quatrième volume, nous allons partir à la rencontre de la French Tech de Boston avec Zena Sfer, la nouvelle présidente de la French Tech de Boston. Et ensuite, je vais échanger avec Annie Antonian et Kieran McConnell, tous les deux membres du groupe francophone d'Accenture ici à Toronto. Et on va parler un petit peu de leur connexion avec la French Tech et des démarches qu'Accenture a avec la technologie, que ce soit en interne ou en externe. Mais pour commencer, j'aurais voulu vous rappeler que le 28 mai prochain, à Casa Loma, à partir de 18h, se tient l'event annuel de la French Tech de Toronto, le gros event annuel de la French Tech de Toronto, à savoir le summit de la French Tech de Toronto. Deux thèmes principaux, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Et du coup, les Early Bird Sentry ont été lancés cette semaine. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà. Beaucoup de communication sur LinkedIn et vous avez le lien pour vous inscrire à ce niveau-là. Donc, venez nombreux, on vous attend 600. L'année dernière, nous étions 500, cette année nous serons 600 au Casa Loma à Toronto. Et donc, comme prévu, comme annoncé, on commence avec Zena Sfer, la présidente de la French Tech de Boston. Et pour commencer ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Zena Sfer de la French Tech de Boston. Après avoir rencontré la French Tech de New York, celle de Miami et celle d'Austin, et bien ce mois-ci, on part à la rencontre de la French Tech de Boston. French Tech qui me tient particulièrement à cœur du fait de ma spécificité où je suis quelqu'un qui est issu de la biotech, et Boston est quand même la Mecque de la biotech. Bonjour
Hello David.
Zéna. Comment vas-tu?
Écoute, ça va, ça va. Ça y est, c'est le printemps, il commence à faire beau, on est bien.
Bon, tout va bien. Est-ce que tu peux te présenter, Zéna?
Oui, alors Zena Sfer, je suis présidente de la French Tech Boston depuis le début de cette année. J'ai commencé ma carrière dans le life science, dans la big pharma, et rapidement j'ai fait un saut vers l'entrepreneuriat. J'ai cofondé ma startup dans le domaine de la santé numérique, et pendant près de 10 ans à peu près, j'ai eu la chance de vivre une expérience entrepreneuriale avec tous ses hauts et tous ses bas. Et ensuite, je suis retournée dans le monde corporate où je travaille actuellement dans la biotech. C'est des biotech basées sur l'intelligence artificielle, donc c'est du AI-enabled biotech avec un focus très particulier sur la phase qui est early discovery, donc la phase qui vient en amont de la phase clinique. Et quelque part, la genèse de mon histoire French Tech, je la dois à mon passé d'entrepreneur, donc c'est naturellement quand je suis arrivée à Boston que je me suis rapprochée de la French Tech il y a maintenant 5 ans.
D'accord, t'es arrivé donc il y a 5 ans à Boston, c'est une jolie aventure. Et du coup, présente-nous un petit peu la French Tech de Boston. Comment ça se passe? Est-ce que tu considères qu'il y a des petites particularités? Raconte-nous.
Oui, alors la French Tech Boston, c'est une des premières communautés French Tech aux États-Unis après New York, si je me trompe pas. On a été labellisé en 2018. Nous avons un bureau composé de 10 membres bénévoles. On est tous bénévoles, on a notre travail à côté, et donc 10 membres bénévoles avec une belle parité homme-femme. C'est un sujet sur lequel nous sommes très attentifs, même quand on fait nos panels, nos activités, nos workshops. C'est vraiment un point sur lequel on est très 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 consciencieux et très discipliné sur cette parité homme-femme. On a un mix d'entrepreneurs, d'intrapreneurs, domaines confondus. Donc, il y a des gens qui sont plutôt focus healthcare, deep tech, ed tech, finance. Donc, vraiment, il y a une grande variété, mais on a un beau cluster qui est très focus sur le healthcare et life science. En général, nous sommes plus de 180 membres français et cadres supérieurs de startups qui ont leur siège social mondial ou américain en Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est un beau mélange de grandes entreprises, petites entreprises, des startups. On a des startups du Next 40, des startups de la French Tech 120 également.
D'accord, ouais, c'est quand même une French Tech. En aparté, Caroline de la French Tech New York me disait que la French Tech de Boston était extrêmement active. Donc, tu me confirmes qu'il y a une grosse activité. Et tu me disais aussi, juste avant qu'on commence la discussion enregistrée, tu me disais que tu avais les chiffres de l'emploi des entreprises françaises sur Boston. Dis-moi
Oui,
tout.
alors Boston, c'est un écosystème assez particulier. Donc déjà pour quelques chiffres comme ça pour introduire le concept de l'écosystème de Boston. En fait, au Massachusetts, en 2023, les entreprises françaises ont représenté 11,4% des emplois créés par les entreprises étrangères, avec plus de 26 000 emplois créés par ces entreprises françaises, ce qui est juste énorme pour le Massachusetts. Et pourquoi je trouve que Boston, c'est un écosystème vraiment unique? Parce que quelque part, Boston coche toutes les cases d'un écosystème innovant. Et là, je pars sur le principe un petit peu du MIT Stakeholder Framework qu'ils ont créé par deux professeurs du MIT Sloan School of Management. En fait, ils sont partis sur un concept en disant qu'il faut 5 stakeholders, 5 critères qui font qu'on a un écosystème très innovant. Il nous faut des entrepreneurs, des universités, un gouvernement, le côté corporate et le risk capital ou bien les investisseurs. Et en fait, rien qu'en regardant la fameuse Kendall Square à Cambridge, qui est connue pour être le mail le plus innovant de la planète, on comprend très vite qu'on a ces 5 éléments qui sont réunis sur cette petite place et qui font vraiment la réussite de cet écosystème innovant qui est vraiment propice au succès. Aujourd'hui, on a une des plus grandes communautés françaises avec plus de 11 000 personnes en Nouvelle-Angleterre. On a un des clusters des plus grandes entreprises françaises comme Schneider, Dassault, Sanofi, Servier, Ipsen, et on a un réseau de plus de 120 startups françaises qui sont ici à Boston, ou en tout cas en Nouvelle-Angleterre, avec des pôles industriels très très uniques à Boston. Comme tu l'as dit au début, le domaine de la santé, c'est le domaine phare à Boston, mais on voit ces derniers mois, plutôt dernières années, une montée aussi du côté deep tech, AI, technologie et de la finance aussi. Et pour finir, et bien également, on a toutes les universités. On peut pas parler ou penser à Cambridge sans parler de Harvard et de MIT. Donc, ils sont vraiment des magnets à talent. Et ça, c'est en plus des autres 64 établissements qu'on a dans le Massachusetts, qui sont vraiment des universités vraiment très prestigieuses des États-Unis, mais aussi du monde entier. Donc, c'est assez intéressant comme écosystème.
Ouais, c'est vrai, quand on pense à Boston, là, tu nous le rappelles, mais ça fait un peu briller les yeux, justement, les universités, moi, pour la biotech, mais l'intelligence artificielle, on se dit, quand on réfléchit au MIT, il y a beaucoup de projets d'intelligence artificielle qui sortent de là, et il suffit d'aller un peu visiter et de voir comme ça phosphore, c'est quand même un lieu magnifique, quoi.
C'est vraiment ça, et effectivement on se rend pas compte le nombre de spin-off qu'il y a du MIT et de Harvard. En fait, il y a plein de boîtes autour de nous, plein de software qu'on utilise qui sont des spin-off du MIT et de Harvard. Et en fait, une fois qu'on commence à voir un petit peu l'historique de ces boîtes là on se rend compte, en fait, tout a commencé là. C'est un peu égocentrique de dire que tout a commencé quelque part ici, à quelques pas de chez moi, mais c'est impressionnant le nombre de boîtes et de success stories qui ont commencé juste sur Kendall Square.
Et justement, c'est quoi vos priorités avec la French Tech sur l'année à venir, ou des projets que vous avez dans les mois qui viennent qui te semblent importants à communiquer dessus?
Oui, en fait, l'axe, si tu veux, le plus important pour nous en tant que French Tech Boston, que ce soit pour cette année ou pour les années à venir, ça va toujours être ça, c'est vraiment comment animer ce réseau et cette communauté qui est très particulière. Donc, ce qu'on fait récemment, on a commencé depuis le début de cette année, on fait des rendez-vous mensuels. Donc, on a lancé notre French Tech Tuesdays à Boston, qui a lieu le troisième mardi de chaque mois. Donc, c'est une sorte de signature event à des thèmes, c'est des thèmes vraiment des thématiques très différentes, mais c'est souvent focus sur tout ce qui est disruptive technology. Donc, on parle de deep tech, on parle de biotech, on parle de AI. Et récemment, il y a un gros focus, comme j'ai dit, sur le climate tech, sur le green tech aussi. Donc, on voit qu'il y a une montée de ce type. Les gens sont de plus en plus aware de l'importance de ce sujet et on a envie de vraiment mettre un spotlight là-dessus. Donc, c'est vraiment l'animation du réseau avec nos rendez-vous mensuels. Et après, si on veut rentrer un petit peu dans comment on segmente les choses, on a, si tu veux, le high level, c'est tout ce qui est networking. Donc, on organise énormément d'événements, des ateliers, des workshops, des rencontres pour faciliter vraiment le networking entre les professionnels. Après, il y a plus un travail de soutien aux entreprises où on est en train de se mettre plus en mode de mentorat, fournir des conseils, des ressources spécifiques à ces startups, ces entrepreneurs français qui cherchent à s'établir ou à développer leur activité sur le marché américain. Notamment, par exemple, là, à la rentrée de septembre, on a un webinar qu'on va lancer sur les taxes, dépendamment de la phase de croissance de chaque boîte, quel type de taxes, comment ils doivent penser stratégiquement à leurs taxes, etc. Donc, c'est vraiment des services très spécifiques à nos membres. Après, on a évidemment la promotion de l'innovation française, l'attractivité de la France, comment on peut mettre en valeur la technologie, les startups, le succès de nos boîtes françaises. Et là, souvent, c'est des events ou c'est des sortes d'initiatives qu'on fait avec nos partenaires, avec qui on travaille en collaboration avec les différents acteurs économiques, notamment le consulat général, la chambre de commerce, le CCE, le Business France. On aime bien mettre un nom marketing, labellisé, tout ça, donc on a appelé ça Team France. Donc, on travaille plus en tant que Team France sur ce type de projet pour vraiment les partenariats et la collaboration cross acteurs économiques en général. Et le dernier point, comme on l'a dit, c'est toute la partie attractivité des talents. Comment vraiment aider les professionnels et les étudiants français de la tech à retrouver des opportunités sur la région de Boston et les garder là et les garder plutôt dans des boîtes françaises plutôt que les perdre pour des boîtes américaines. Si on peut, ça sera l'idéal. Donc, on vraiment travaille sur comment garder et attirer le meilleur des talents qui sortent de Harvard, de MIT, des super grandes écoles qu'on a autour de nous à Boston et qui fassent partie de cette expérience French Tech.
Et par rapport à ce dernier point sur les étudiants, justement, comment vous faites en pratique? Parce que c'est intéressant. Nous, je crois pas que ce soit quelque chose qu'on fasse à Toronto. Du coup, c'est quand même quelque chose qui est toujours intéressant. S'il y a des bonnes pratiques à essayer de mettre en place, ce serait génial.
Oui, alors David, ce qu'on fait l'année passée, celle d'avant également, même pendant la pandémie, c'était en virtuel, on a participé au MIT Career Fair. C'est un rendez-vous annuel qui a lieu à MIT, donc on peut vraiment rencontrer des professionnels et rentrer en contact directement avec les étudiants français. Et également, une chose qu'on avait faite il y a quelques années aussi, c'est et d'ailleurs cette année aussi, on participe au MIT Summit, Sustainability Summit, qui est en fait une conférence qui est student-led, donc c'est aussi des étudiants, c'est un regroupement des étudiants qui sont intéressés par un topic très spécifique qui est le sustainability, green tech, climate tech, à laquelle on participe également. Donc ça aussi, c'est une autre façon d'être en contact avec des étudiants et avec des professionnels qui sont intéressés par un sujet très précis et pouvoir vraiment mettre en avant l'attractivité des talents français.
Merci beaucoup, c'était très riche. J'aurais eu envie de parler beaucoup plus longtemps, malheureusement on est un peu contraint par le temps. Et je te remercie beaucoup Zena pour tout ce que tu as pu partager avec nous et pour ton énergie communicative également. Et c'était très agréable de discuter de la French Tech de Boston avec toi.
Merci David, merci à toi.
À bientôt, au revoir Zena.
Au revoir.
Rebonjour pour ce 4e épisode du podcast de la French Tech de Toronto. J'ai le plaisir de recevoir d'autres acteurs impliqués dans le domaine de la technologie à Toronto. En la personne de Kiran et Annie qui travaillent tous les deux chez Accenture et qui vont nous expliquer un petit peu comment Accenture contribue à la technologie à Toronto et ailleurs dans le monde. Bonjour Kiran, bonjour Annie.
Bonjour, merci pour l'accueil.
Vous êtes les bienvenus.
Bonjour. Merci pour l'accueil. C'est un plaisir d'être ici.
Merci. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter, nous dire qui vous êtes?
Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Annie Antonian. Je suis une gestionnaire chez Accenture dans le domaine de la stratégie et conseil de technologie. Ça fait 10 ans que je travaille dans cette entreprise. C'est mon premier travail en temps plein après avoir obtenu ma maîtrise dans l'Université de Toronto. Et en parallèle avec mon rôle de gestionnaire, j'ai aussi le rôle de co-chef national du groupe de ressources des employés sous la francophonie au Canada, dont je parlerai plus tard.
Merci beaucoup, Annie. Kiran?
Bonjour, merci pour l'accueil. Moi, c'est Kiran McConnell, c'est un nom très zélandais, donc tu peux questionner pourquoi est-ce que je suis capable de parler français assez courant. C'est parce que ma mère, elle est québécoise, donc je suis moitié québécoise, moitié irlandais, donc je suis basculé entre les deux. Et moi, je suis un analyste principal à Accenture. Quand tu es un analyste, il n'y a pas une spécialisation ou un domaine principal, mais principalement, actuellement, je travaille dans l'espace des réseaux 5G, dans les télécommunications, dans l'espace médiatique. Et actuellement, ces jours, je travaille sur les projets où on met en œuvre les réseaux 5G privés dans l'industrie ou la fabrication, oil and gas ou tout ça dans le secteur industriel. Bref, j'étais diplômé avec un diplôme en économie à Queen's University et puis aussi j'ai aussi étudié à Paris pour 6 mois, donc j'ai vécu à Paris pour un instant et j'étais embauché par Accenture il y a deux ans et puis j'ai déménagé ici de Paris et ça fait 2 ans que je suis à Accenture, donc ouais, ça c'est l'intro en bref.
Donc vous l'aurez compris, pour ce nouvel épisode on reçoit des citoyens du monde, c'est super agréable dans une ville comme Toronto de recevoir des gens qui des personnes qui connaissent le monde et qui ont vécu à travers le monde de manière assez impressionnante. Donc c'est peut-être déjà une particularité, ça permet peut-être de faire le lien un petit peu avec Accenture et c'est peut-être une particularité d'Accenture. Du coup, est-ce que vous pouvez me présenter Accenture? Je sais pas qui est-ce qui veut commencer.
C'est une grande boîte de conseil, juste un peu comme Deloitte, un peu comme McKinsey, un peu comme BCG, comme les autres, mais c'est principalement on focus sur les technologies ou dans le domaine de technologie où on met en œuvre les technologies de gestion solution pour notre client, innover pour les clients, on fait des stratégies d'innovation. On est une société multinationale, on a des actions publiques, on est un peu différent des autres grandes boîtes de conseil. Par exemple, on opère dans le domaine mondial, on est une seule entreprise, donc il n'y a pas toutes ces entités à travers le monde. On est très, très, très grand, 700 000 environ des employés à travers le monde. Donc, on travaille partout, dans tous les domaines, chaque chose que tu peux penser, il y a probablement un projet dans ton travail.
Donc, la technologie en fait partie, on y reviendra un petit peu après. Et du coup, peut-être que Annie, tu nous disais tout à l'heure, tu vas nous parler un petit peu plus de la cellule francophone qu'on a chez Accenture.
Oui, bien sûr. Alors, notre groupe, ça fait 7 ans de l'existence de notre groupe, et notre objectif principal est de soutenir tous les membres de notre communauté d'Accenture Canada qui désirent cultiver leurs compétences linguistiques en français. Ici, notre but est de promouvoir la diversité culturelle francophone au Canada. Ici, il faut souligner que l'aspect de la diversité est actuel pour l'identité bilingue du Canada ainsi que pour la clientèle dans Accenture, car on a des projets où le travail est fait en anglais et en français. Quelquefois, dans les deux langues, quelquefois dans une langue. Et tout ça, ça dépend du clan et du région ciblée par Canada.
Et concrètement, comment ça se matérialise justement? Quelles sont les actions que vous avez pour maintenir cette culture et cette langue au sein d'Accenture?
Oui, bien sûr. Alors, dans notre communauté, nous avons 3 segments du public. Alors, on a des personnes qui sont totalement novices à la langue française. Elles cherchent des opportunités pour se familiariser avec la langue française, la culture francophone. On a aussi des personnes qui déjà connaissent le français. Elles cherchent des opportunités pour les pratiquer un peu plus souvent. Et on a aussi des francophones natifs qui sont à la recherche d'un réseau ou des personnes à guider dans leur pratique de français. Et pour nous, c'est très important de maintenir l'engagement parmi ces 3 groupes. Et nous faisons ça avec des activités différentes. Par exemple, on a des activités d'apprentissage comme des programmes de jumelage linguistique en français. On a aussi des cours de français qui sont subventionnés par le gouvernement du Québec. On a aussi, quelquefois, on planifie des satellites midi-conférences par Teams. C'est comme un petit lunch and learn où on donne du contenu en français qui est pertinent pour le travail que nous faisons ici à Accenture. Par exemple, la terminologie de cas d'affaires en français, c'est un exemple concret. Et on a aussi des événements avec un aspect culturel. Par exemple, des pop-up au café. On a eu aussi dans le passé des soirées karaoké et aussi des tirages au sort ou des billets de spectacles de théâtre en français. Donc, ce sont quelques exemples des activités que nous faisons pour garder et aussi grandir la dynamique dans notre communauté.
Et par exemple, parce que tu l'as pas cité, je me permets de le faire, dans le cadre de la journée de la francophonie qui s'est passée dernièrement, il y a Estelle et Nicolas, donc Estelle Chen, notre présidente de la French Tech Toronto, et Nicolas Venuc, qui s'occupent de tout le fundraising et qui gèrent la soirée du Casaloma le 28 mai prochain, qui sont venus vous présenter la French Tech et vous expliquer un petit peu quelles sont les missions de la French Tech. Et c'est comme ça également qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant que vous participiez, que vous preniez part à ce podcast. Merci beaucoup pour le détail. Et je trouve que c'est une initiative pour être en contact avec pas mal de cabinets de consultants. Je vous le disais lors de nos précédentes rencontres, c'est une initiative que je ne connaissais pas trop, que je ne connais pas dans d'autres cabinets. Je trouve ça très bien, je trouve ça très original. Et quand on travaille dans un cabinet, souvent on recherche de l'originalité également. Et merci pour ça, merci Accenture pour ça. Peut-être, vu que je fais faire le lien avec la French Tech, peut-être que vous allez pouvoir me dire, ben, la technologie chez Accenture, que ce soit pour vos clients et également pour les employés en interne, comment vous la vivez, comment vous l'embrassez entre guillemets.
Donc, la stratégie, c'est plus en amont que la technologie. Quand on donne le conseil à une entreprise de changer leur structure, leur système de gestion, comment se gérer. C'est pas juste le conseil, c'est pas juste les idées, c'est pas juste les conversations. Il y a une autre chose qui est très importante de nos jours, et ça c'est la technologie, évidemment, les technologies de gestion, on les connaît. Ils sont les Salesforce du monde. le SAP, toutes ces technologies de gestion. Donc, on donne les stratégies de comment implémenter ou de comment mettre en œuvre ces technologies pour mieux gérer les entreprises ou mieux gérer les entités ou quel que soit le projet. Mais on sait plus que les autres boîtes, en fait, comment mettre en œuvre toutes ces technologies de gestion chez nos clients. Parce que on embauche beaucoup des gens qui viennent de nos clients même. Donc, ils connaissent les systèmes, ils connaissent comment les entreprises fonctionnent et on peut les offrir les formations sur ces technologies pour qu'ils puissent retourner chez leurs anciens employeurs pour mettre en œuvre cette technologie pour mieux gérer leur entreprise dans quelle que soit la mission de leurs clients. Donc c'est un peu différent où la majorité des boîtes de conseil se focus seulement sur la stratégie, ce qui est en amont, comme j'ai dit, mais on focus aussi pas juste la stratégie, mais aussi
sur l'exécution ouais. de la stratégie.
L'exécution, exactement.
Et concrètement, vous avez des domaines un petit peu plus vous êtes un peu plus spécialiste ou vous avez des champs d'expertise aujourd'hui. On sait qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais tu me disais que tu travaillais dans le déploiement de réseaux 5G, de réseaux 5G. C'est quoi aujourd'hui qui anime le au plus le quotidien de chez Accenture ou ton quotidien chez Accenture peut-être?
On est l'une des plus grandes entreprises au monde. Donc, dans le cadre individuel, on peut focuser dans des certains domaine. Pour moi, c'est les 5G. Pour les autres, c'est quelque chose de différent. Mais en général, c'est tout.
D'accord.
Qu'est-ce que tu veux en tant que client? On peut probablement le faire. On peut probablement le mettre en œuvre. Il y a 700 000 de nous à travers le monde. Mais pour nous, en tant que des employés, quand on travaille à Accenture, c'est à nous à choisir une spécialisation, de devenir un expert en quelque chose et de faire de le réseautage au sein de notre entreprise pour trouver les équipes qui offrent un service qui peut que levier ton connaissance dans cet domaine. Donc, oui, pour moi, c'était les télécommunications. J'ai l'expérience avec les télécommunications. J'ai bossé beaucoup avec les gens dans cet espace-là avant d'entrer à Accenture ou avant d'être embauché. Mais pour les autres, ça peut être quelque chose de différent. Et comme j'ai dit, il y a des gens qui a travaillé dans notre entreprise et puis étaient embauchés à Accenture. Et après ça, leur client, c'est l'ancien entreprise. Et ça, c'est parce qu'ils savent ce qui se passe chez ces clients.
Merci beaucoup pour ta réponse. Ça, c'est pour l'aspect client. Et en interne, comment ça se passe? Est-ce que ça la technologie, enfin j'en pense certainement une porte ouverte, mais comment vous mettez en œuvre les technologies nouvelles pour faire en sorte d'être toujours plus efficace?
Oui, donc dans le cas de AI, c'est très important de discuter ceci parce que l'utilisation de AI, c'est plutôt l'amélioration des compétences des personnes au sein de ces entreprises, au sein de nos clients ou chez nos clients, chez nous. Donc le conseil qu'on donne, c'est important pour nous avant de mettre en œuvre le conseil sur AI et ses applications dans l'espace des gestion chez nous avant qu'on le conseil aux nos clients. Donc, il y a beaucoup des programmes qu'on met en œuvre chez Accenture. Par exemple, on utilise quelque chose un peu comme ChatGPT, il s'appelle Writer. On l'a fabriqué chez nous et on peut l'utiliser pour faire des blogs, pour faire du marketing, pour faire des choses qui aident avec les gestions d'Accenture même.
Oui, pour faire comme des prototypes, pour les utiliser comme un exemple à suivre avant de leur donner une recommandation pour prouver que ça fonctionne dans la réalité, dans le monde réel.
D'accord, donc vous utilisez avant de faire une proposition d'un produit, quel que soit le produit client dans le domaine technologique, vous vous assurez qu'en interne, c'est quelque chose qui est efficace et qui fonctionne bien, c'est ça,
ouais.
Si je comprends bien.
Évidemment.
D'accord, mais même, vous avez plus que, bien sûr, vous assurez que ça fonctionne, mais en plus, vous assurez que ça fonctionne sur vos équipes. Donc très bien, je comprends le principe. Pour passer à une autre question, tout à l'heure, je disais donc que la French Tech était venue faire une présentation chez Accenture lors de la journée mondiale de la francophonie pour présenter ses missions, mais pour vous, ça représente quoi justement la French Tech chez Accenture, que ce soit à Toronto ou de manière globale?
Pour moi, spécifiquement, étant donné les objectifs publics qui sont reconnus dans la communauté de la French Tech, pour moi, la French Tech est une porte d'entrée pour le bénéfice émergent de la langue française et pour son potentiel dans le monde de la technologie. Parce que maintenant, beaucoup de personnes, normalement, ils pensent que oh, l'anglais, c'est la langue des affaires, la langue internationale pour le travail. Mais dans le futur, tout peut changer à chaque fois. Et maintenant, je suis très impressionnée par tous les investissements que le gouvernement de France est en train de faire pour que la France devienne dans le futur la prochaine Silicon Valley. Et qu'est-ce que ça signifie que la langue française, que sa pertinence va grandir? dans le futur. Ouais, et à mon avis aussi, j'ai vu quelques statistiques dans le site web de l'Organisation internationale de la francophonie qui dit que le nombre de francophones dans le monde va grandir, et il faut que je trouve les statistiques, mais il va grandir...
50 millions des gens...
Oui, par 500 millions, je pense. Et l'agrandissement va avoir lieu aux Républiques démocratiques du Congo.
Exactement.
Et je peux juste raconter une petite histoire de cet effet. Notre PDG, Julie Sweet, a demandé à Emmanuel Macron à Davos en début d'année comment il voyait l'Europe dans le contexte de la manière qui est dominée par les AI. Et il a répondu en parlant tout de suite de l'importance des talents issus du francophonie et de la France et du monde francophone. Donc, aventure, nous, comme j'ai dit, on est une entreprise de personnes, des talents, des compétences humaines. Donc, le plus que nous pouvons promouvoir la langue française et le bilinguisme, les langues étrangères en général, le plus que nous aurons accès à un large réservoir des talents mondial. Donc, aventure, à l'instar de la francophonie elle-même, c'est une entreprise qui est très mondial. Nous avons un portée mondiale aussi, donc c'est très utile pour nous à promouvoir l'apprentissage de notre deuxième langue officielle au Canada en tant que pays qui est francophone, parce que l'arène géopolitique bouge et l'Europe est une puissance et le Canada se trouve au plein milieu de toutes ces puissances en tant que pays qui est américain, anglais et français aussi, donc de promouvoir l'apprentissage de la troisième langue ou la troisième culture qui est celle de la francophonie, c'est rien d'utiliser.
Et donc du coup, c'est non seulement quelque chose qu'on comprend chez Accenture, c'est quelque chose qui est important culturellement au niveau canadien, mais stratégiquement au niveau global également.
Oui.
C'est important. Merci beaucoup pour ces réponses. J'ai une dernière question que j'ai eu la tradition de poser à chaque fois, et là c'est d'autant plus intéressant que vous êtes des personnes qui venaient du Canada ou qui vivaient depuis très longtemps au Canada. Est-ce que vous auriez des petites, l'un et l'autre, des trucs et astuces pour quelqu'un qui viendrait s'implanter à Toronto?
C'est assez difficile à donner une astuce particulière, parce que l'histoire de chacun, c'est très personnel. Mais je peux dire, et je dis exactement la même chose aux étudiants qui me demandent comment est-ce que je peux bâtir mon avenir, comment est-ce que je peux trouver mes communautés, le travail parfait, ou ces sortes de questions, ces genres de questions. Et ma réponse, c'est toujours, quel que soit qui vous intéresse, juste poursuivez-le et trouvez une communauté qui se consacre. Parce que c'est là où on va trouver les esprits qui sont les mêmes de vous. Si tu joins une équipe sportive ou une équipe du foot ou du hockey, tu vas trouver les autres, mais tu vas trouver seulement les gens qui veulent jouer du foot ou qui jouent du hockey avec vous. Mais de trouver les gens qui sont plutôt la même, tu peux rejoindre le French Tech, la communauté francophone si t'es français, mais tu peux aussi rejoindre juste beaucoup des choses différentes, des communautés d'art, des clubs pour, je sais pas, chanter si ça t'intéresse, juste quel que soit l'intéresse. Poursuivez-le. Ça, c'est mon petit pièce de conseil.
Merci beaucoup, Kiran. Annie, tu aurais un conseil de ton côté également?
Oui, pour moi, les conseils astuces, les premières, apprendre le deux langues officielles du Canada et tu auras l'opportunité d'apprendre en plus parce que, à mon avis, surtout en arrière de cours subventionnés par le gouvernement canadien parce que il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça. Donc, c'est une grande opportunité à prendre parce que ça, la connaissance des langues, pour moi, c'est la richesse. Ça ouvre beaucoup de portes dans les relations interpersonnelles, dans les relations des affaires et la connexion, ça devient plus organique avec la connaissance de la langue.
Par curiosité, combien tu parles de langues, Annie, par curiosité?
Ah, moi, je parle 4 langues. Alors, mes premières langues sont l'espagnol et le russe. Bien sûr l'anglais, bien sûr le français, un peu allemand aussi. Alors oui, et sachant les langues, ça donne l'avantage d'être présent dans des mondes différents. La manière de penser change aussi. Alors apprendre la langue ici, un député du Canada a l'opportunité d'avoir tout en français et en anglais. Donc, c'est un des aspects uniques du Canada. Ici, mon autre recommandation est utiliser les opportunités, faire un avantage en temps réel et ne supposer pas que la même opportunité se va présenter dans le futur et n'avoir peur de ça parce que, heureusement, il y a beaucoup de situations où le résultat de quelques événements, c'est le résultat de notre désir et l'opportunité se peut agrandiser sans limite. L'on le veut. Et aussi, personne ne sera pas jamais seul. Donc, si tu veux trouver un reçu de soutien, le Canada te donne tous les outils qui sont nécessaires pour ça.
Oui, je pense qu'on peut devenir très, très, très cultivé à Toronto si on choisit d'aller vers des autres groupes. Parce que c'est la ville la plus diversifiée du Canada, mais et peut-être au monde. Donc.
Je pense au monde, je disais comme statistique que 51% des personnes qui vivent à Toronto ne sont même pas nées au Canada. Donc, ça me permet de faire une jolie conclusion. Merci beaucoup pour l'échange qu'on vient d'avoir. Ravi d'avoir discuté avec des citoyens du monde qui appartiennent à une entreprise qui considère la francophonie non seulement comme quelque chose d'important d'un point de vue culturel, mais également comme un sujet important d'un point de vue stratégique. Et en effet, je te confirme, Annie, la première ville française francophone au monde, c'est Kinshasa, et la langue française devrait devenir la deuxième langue la plus parlée à travers le monde dans les 50 ans qui viennent. Donc, je pense que c'est un très bon calcul de la part d'Accenture de la mettre au cœur de sa stratégie. Merci beaucoup pour cette discussion. C'était donc David Manetti dans le cadre du podcast de la French Tech avec Annie et Kéran, qui tous les deux travaillent chez Accenture à Toronto. Merci beaucoup.
Un plaisir.
C'est bien.
C'était votre nouvel épisode du podcast de la French Tech Toronto avec David Manetti, un invité en studio et un invité du bout du monde. Retrouvez-les tous les avant-derniers mardis du mois à 20h sur Choc FM 105.1.